Aujourd'hui, donc, c'est le premier dimanche du mois et nous avons commencé une série sur les sept paroles de Jésus sur la croix. Nous avons vu les deux premières paroles. Jésus crucifié par ses bourreaux. Et il prie le Père. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Nous avons médité le mois dernier la deuxième parole de Jésus crucifié sur la croix. Quand un brigand se convertit et donne sa vie à Jésus-Christ. L'autre brigand, il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et aujourd'hui, la troisième parole de Jésus sur la croix, et je vous invite à regarder dans votre Bible où il est affiché sur le PowerPoint, c'est sa troisième parole. Jean 19, versets 23 à 27. J'aime bien toujours, quand j'étudie la Bible, ne pas sortir un verset, une phrase, une expression de son contexte. Il faut le situer dans son contexte. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on commence au verset 23. Mais la troisième parole, il se trouve au verset 26 et 27. Mais il faut le regarder dans son contexte. Verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, verset 24, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Et verset 25, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, elle s'appelle, femme de Clopas, et une autre Marie, Marie de Magdala. Verset 26, Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, voilà la troisième parole, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Qui est ce disciple? Jean, celui qui écrit l'évangile. Oui, il ne se nomme pas. C'est le disciple que Jésus aimait. D'abord, de ce passage, nous allons regarder le contexte, je dirais, immédiat. Je vois deux circonstances et deux publics qui est cité dans ce que nous venons de lire. D'abord, je veux regarder, comme mon projecteur est tourné vers les soldats. Et nous venons de lire au verset 23 à 24, il décrit ce qu'ont fait les soldats, n'est-ce pas? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, les soldats romains, ils sont endurcis par leur métier. Ce sont des hommes cruels, brutaux. Et rappelez-vous, quand Jésus sortait du procès chez Pilate, ils ont montré de quoi ils étaient capables, ces soldats romains. Ils leur soufflaient, donnaient un soufflet à Jésus. Ils se moquaient de lui. Et vous savez, ces soldats n'avaient aucun intérêt à ce qui se passait. Ils étaient là pour faire leur boulot. C'est tout. Le reste, ça ne les intéresse pas. Mais Jean a inséré dans les détails ce qu'il faisait en vue d'accomplir des prophéties à peu près plusieurs siècles avant. C'est dans le psaume 22, verset 19. Cette prophétie est accomplie parfaitement par ces hommes qui ne savaient même pas qu'ils sont en train de faire quelque chose pour accomplir la parole de Dieu. C'est incroyable. Et si vous êtes un peu plus curieux, vous relisez chez vous Jean chapitre 19, il n'y a pas moins de 10 19 prophéties de l'Ancien Testament qui est accompli dans ce chapitre 19. Pas moins de 19 prophéties de l'Ancien Testament. Donc, hein, les soldats accomplirent ce que David avait dit dans le psaume 22, verset 19. Ils se partagèrent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Ça, c'est ce qui s'est passé quand le projecteur est tourné vers les soldats. Maintenant, tournons le projecteur vers d'autres personnes qui étaient près de la croix, n'est-ce pas? Et nous lisons au verset 25, près de la croix de Jésus se tenait qui? Sa mère. Qui? La sœur de sa mère. Hein, comment elle s'appelle? C'est pas mentionné. Hein, mais on dit qu'elle est femme de Clopas, on dit le nom de son mari. Et il y a un autre mari qui s'appelle Marie de Magdala. Vous savez, quand j'observe le texte, la première chose qui saute à mes yeux, avez-vous remarqué que par ces catégories de personnes dont le projecteur est maintenant, il regarde, il voit quoi? Des femmes. Sauf une exception, le disciple. Mais la majorité sont des femmes. Ça m'a frappé. Je me suis posé des questions, mais où sont partis les hommes? Revenons un tout petit peu. Eh bien, nous savons qu'ils ont fui ces apôtres, ces 11 apôtres, hein, depuis l'arrestation. Nous étions déjà passés par là, dans le jardin de Gethsémané. Hein, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu 26, 56. Et plus tard, le disciple, on dirait le plus courageux dans la parole et pas dans les actions, c'est qui? Pierre, il va le renier combien de fois avant que le coq ne chante? 3 fois. Et nous avons vu encore que le jour de la résurrection de Jésus, les disciples se sont barricadés. Où? Dans la chambre haute. Nous l'avons fait remarquer ça aussi, par crainte des Juifs. Jean 29. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Où étaient les hommes? Mais voilà. Les femmes étaient là. Et, si vous observez, ces femmes, qui sont-elles? Observez juste le texte dans votre Bible. Nous lisons verset 25, Jésus se tenait près de la croix de Jésus, se tenait sa mère. La sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas. Et nous lisons par ailleurs qu'il a eu des enfants, donc il est une mère. Sauf Marie de Magdala, jamais vous ne lisez dans l'évangile qu'elle est mère de quelqu'un. Et ça m'a frappé. Que ici, à l'exception de Marie de Magdala, on observe que les femmes qui étaient présentes étaient tous des mères. On commence à citer Jean, Marie, mère de Jésus. Et pourtant, rappelez-vous à la naissance de Jésus, quand Siméon prenait ce petit enfant en ce moment-là, il avait prophétisé quelque chose, une épée te transpercera l'âme. Et il est en train de s'accomplir maintenant, sa mère auprès de la croix, son fils crucifié. J'ai dit, exception Marie de Magdala, tous étaient des mères. Et ça, c'est quelque chose de fort. Je vois ma femme avec ses enfants, ici il y a des mamans. Et ça, on sait ce que c'est les mères. Elles sont capables de tout. Ici la preuve. Les hommes ont fui, les disciples, les apôtres qui étaient proches de Jésus ont fui, mais elles étaient là. Et vous savez, nous lisons dans Luc que beaucoup de femmes qui ont cru au Seigneur le suivaient dans ses ministères. Et ces femmes qui sont citées ici, eh bien, ils citaient depuis le début de son ministère. Quelle fidélité! Quelle fidélité au Seigneur! Ils donnaient de leur bien. Il y a des femmes de toutes les classes sociales. Mais ils étaient ensemble, accompagnant Jésus dans son ministère. Et au moment où il est crucifié, elles sont là. Ça me fait penser à ce passage dans Ésaïe 49, versets 15 à 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. C'est Isaïe le prophète qui parle. Et vous savez, qu'est-ce qui est le contexte de ce verset? Et regardez juste le verset 14. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et dans ce contexte, Isaïe, par le biais d'Isaïe le prophète, Dieu prenant la métaphore d'une mère pour dire que jamais Dieu abandonnerait Israël. Jérusalem. Magnifique. Rappelons-nous des circonstances que nous venons de citer. Donc, les soldats romains montrent une brutale indifférence en partageant entre eux ses vêtements après l'avoir crucifié. On avait mentionné qu'ils ont accompli inconsciemment les Écritures. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Les apôtres, les onze, ils ont fui. Le mot peut-être n'est pas suffisant, mais je dirais qu'ils étaient des lâches en ce moment. Et pourtant, il dit, j'ai Pierre, même s'il fallait que je meure avec toi, j'irai jusqu'au bout. J'ai dit, à l'exception de Marie de Magdala, on observe que les femmes qui étaient présentes étaient tous des mères. Quel exemple de courage! Quel exemple de courage! Et vous savez qu'au milieu de ces circonstances qu'on vient de mentionner, où on a vu les défections de ces 11 hommes que sont les apôtres de Jésus, et au milieu de cette scène d'horreur de la crucifixion, où les souffrances de Jésus atteignent leur point culminant, et là jaillit ce que je vois, observe dans ce passage, la majesté de Jésus magnifié dans par cette troisième parole dite à sa mère ou aux disciples qui l'aimaient. Oui, il y a dans ce passage, dans les versets 25 à 27, il y a deux personnes, si vous avez remarqué, qui ne se nomment pas. C'est qui? Il se dit le disciple qu'il aimait. Il s'agit de Jean. Il dit aussi l'autre comme sa mère. Il s'agit de qui? De Marie. Et tournons notre regard maintenant sur notre Seigneur sur la croix. Il se préoccupe de sa mère et la confie à Jean, son disciple bien-aimé, qui prendra soin d'elle. Et pour quelle raison? On a peut évoquer beaucoup de raisons, mais je trouve deux importantes. D'abord, puisque Joseph, son mari, je dirais, était probablement décédé. Et vous savez, depuis que Jésus a commencé son ministère public, vous ne lisez plus dans les évangiles le nom de Joseph. Donc, on peut supposer qu'il était probablement décédé. Donc il se préoccupe de sa mère, parce que son mari est probablement décédé. Et aussi, Jésus bientôt va au ciel après sa mort et sa résurrection. Mais quelque chose que je trouve encore plus profond, c'est que maintenant Jésus va faire pour sa mère ce qu'elle n'aurait jamais pu faire. Jésus donnait sa vie pour elle. Sa mère près de la croix, Jésus est crucifié sur la croix. Oui, Jésus donnait sa vie aussi pour elle, comme pour tous ceux qui croient en lui. Oui, il ôtait son péché de devant Dieu, parce qu'elle avait besoin aussi d'un sauveur. J'aime beaucoup ce qu'il disait hein, en Luc 1,47, « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Ici, je trouve quelque chose de très fort, hein, qu'il faut retenir, hein, pour ceux qui veulent exalter Marie, au point de l'appeler la mère de Dieu, de sorte qu'elle soit un objet d'adoration. Quelque chose qu'on voit dans les Écritures, jamais dans le Nouveau Testament, nous lisons quand il y a des femmes qui étaient assises vis-à-vis du sépulcre en Matthieu 27, 61, Marie a été mentionnée. Elle ne fait pas partie de ces femmes. Au moment où Marie de Magdala et l'autre Marie, la mère de Jacques et de Joseph, ou Jose, étaient assises sur le sépulcre, vis-à-vis du sépulcre, eh bien, Marie n'était pas mentionnée. Dans la chambre haute, quand Jésus va apparaître après sa résurrection aux disciples, on ne cite pas Marie non plus. Même lors de son ascension à Béthanie, on ne cite pas Marie. Et vous savez où se trouve la dernière mention de Marie dans le Nouveau Testament? Eh bien, dans Actes des Apôtres. Là, elle se trouve réunie dans la chambre haute. Regardez Actes 1, verset 14. Et ils étaient là en attente de la venue du Saint-Esprit, le Consolateur. Et là, on voit quelque chose de magnifique. Du temps de ministère de Jésus, ses frères ne croyaient pas en lui. Mais là, quelque chose s'est passé après sa résurrection. Ses frères se trouvent là, dans la chambre haute, avec leur maman. Et nous lisons tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est la dernière mention dans le Nouveau Testament où il est question de Marie. Mais quelque chose à souligner ici, les disciples ne font pas monter leur prière vers Marie. Marie même était présente à cette réunion de prière et elle priait dans l'attente de la venue du Consolateur. Donc rien dans l'Écriture n'autorise des croyants à lui adresser des prières. Pas plus qu'à aucune créature, n'est-ce pas? C'est important de souligner cela. Maintenant, regardons à travers cette parole, la profondeur de cette parole qui manifeste la majesté de Jésus-Christ. Au moins, je relève deux raisons. Versets 26 et 27, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Je vois ici la majesté de la parfaite humanité de Jésus magnifiée par l'exemple d'amour qu'il a pour les siens, particulièrement sa mère. Ici, on comprend mieux l'amour de Jésus pour les siens. Mettez-vous à sa place. Vous êtes crucifié. Avez-vous les pensées, le temps d'y penser aux autres? Humainement, on aurait dit qu'il avait intérêt à se soulager en étant être là. Non. On lit ici, il se soucie de nos besoins terrestres. Peu importe leur nature matérielle, psychologique ou spirituelle, il se soucie de nous. On voit ici par l'exemple qu'il a pour sa mère. Vraiment un sauveur merveilleux. Et on ne peut que rendre gloire à Dieu, comment dans ce moment terrible, son amour est manifesté à travers les siens, particulièrement sa mère. Mais je vois une deuxième chose, ici aussi on trouve un rappel important. qu'en période de douleur, je vois que les relations spirituelles qu'on entretient avec ses frères et sœurs en Christ représentent une source considérable de force et de réconfort pour surmonter peine et douleur. Femme, voilà ton fils. Puis Dieu dit, voilà ta mère. Et vous savez, à ce sujet, la parole de Dieu nous exhorte à 1 Thessaloniciens 5, 14. Comprenez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Mais à travers cette parole, la majesté de la parfaite humanité de Jésus est aussi magnifiée par le principe spirituel derrière cette parole qui vient de prononcer étant crucifié sur la croix. Je vois ici, à travers cette parole, par l'exemple concret, il montre la puissance des liens spirituels sur les liens naturels dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez, à une occasion de son ministère, il avait dit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Je parle de Jésus. Et il disait, « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père, et qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Matthieu 12, 48, 50. En prenant Marie chez lui, Jean s'en occupe pour montrer, je dirais par anticipation, avant la naissance de l'Église, que le lieu de consolation par excellence pour les croyants, c'est l'Église locale. C'est l'Église locale. Et à ce sujet, l'enseignement du Nouveau Testament est riche en exhortations pratiques. Romains 15, 7, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Si les verbes sont à l'impératif. Si on demande à l'impératif, c'est que c'est possible. Par l'Esprit en nous. Accueillez-vous donc les uns les autres. Jean a accueilli Marie chez lui. Et nous lisons, dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Il y a beaucoup de choses derrière cette parole. Dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Peut-être qu'il ne voulait pas trop que Marie reste là, en train de souffrir en voyant son fils attaché là, d'une manière injuste. Il l'a pris chez lui dès ce moment, après la parole. Quelle bienveillance, quelle sollicitude. Romains 12, 13, pour voyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Oui, il l'a accueilli chez lui, dès ce moment-là. Et oui, l'enseignement du Nouveau Testament ne contredit pas cela. On voit là déjà, dans cet exemple, ce que Jésus est en train de dire, le germe de ce que sera les relations entre les croyants dans l'Église locale. Et bien oui. Et 1 Pierre 4, 9, Pierre lui-même exerçait l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Oui, que Dieu nous donne lui-même des dispositions pour nous soumettre à sa seigneurie dans nos relations mutuelles, je dirais. Et qu'il nous donne un cœur semblable au sien, empreint de sollicitude et d'amour les uns pour les autres. Amen.